Un caillou dans la chaussure, une émission culturelle à propos d'enfance proposée par Marie-Dominique Russis et Nathalie Guimard avec des invités pour parler livres, cinéma et sorties en famille. Aujourd'hui, nous accueillerons Caroline Guichard du magazine Trottinette qui a repéré des idées de sorties pour l'été. Nous retrouverons Nathalie Guimard pour la rubrique du petit cinéma de Photokino avec un festival de films programmé pendant le Festival international du documentaire qui se tiendra à Marseille du 8 au 13 juillet sous l'intitulé Les Sentiers. Nathalie, bonjour.
Bonjour Marie-Dominique. Oui, Les Sentiers, c'est un des écrans du FID Marseille ouvert aussi aux enfants. Voilà, avec neuf films cette année que je vais vous présenter.
Et tout de suite, un entretien avec Delphine Chedru, auteure illustratrice d'albums jeunesse variés de plaisirs, de lectures et d'activités. Comme nous aimons à le faire dans cette émission, je vous propose de rencontrer une auteure illustratrice vivifiante, Delphine Chedru. Nous la joignons par téléphone dans son atelier où elle travaille, à Paris, là où elle vit. Delphine Chedru, bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission. Alors, on pourrait commencer peut-être pour dévoiler un peu votre itinéraire. Delphine Chedru, vous avez initialement suivi une formation aux arts décoratifs, vous avez fait un détour par le graphisme, puis vous avez glissé dans le domaine de l'illustration. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui a motivé plutôt ces glissements, ces passages? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous semblez avoir trouvé, me semble-t-il, votre place dans le paysage des albums jeunesse?
Oui, bien sûr. J'ai débuté en effet en étant graphiste freelance. J'ai suivi des études aux arts décoratifs de Strasbourg en section graphisme. Et puis après quelques années en tant que graphiste, je me suis un peu asséchée en fait. Je crois que je m'amusais plus vraiment. Mm-hmm. Et par ailleurs, c'est vrai que le livre jeunesse a toujours été très présent dans ma vie et puis une grande importance quand j'étais enfant. C'est vrai que mes livres d'enfant, je les garde toujours, je les relis avec plaisir. C'est quelque chose qui m'est assez cher. Et puis un jour, je suis devenue maman, donc j'ai replongé dans le livre jeunesse en tant que lectrice pour lire ça à mon fils. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps et j'ai décidé de faire des images d'abord, de réfléchir à des histoires et puis peu à peu de proposer des projets chez des éditeurs. Et puis un beau jour, j'ai pris mes cartons, j'ai été frappée à différentes portes et un jour, un autre jour, il y en a un qui a accepté et je me suis lancée dans l'illustration jeunesse. Mm-hmm. Et c'est vrai que depuis, je fais quasiment plus de graphisme.
Oui.
Mais je fais de plus en plus de livres, à mon grand plaisir.
Alors, vous parliez de souvenirs de lecture dans votre propre enfance. Est-ce que vous avez des titres comme ça que vous pouvez citer, qui vous ont marqué?
Bien sûr. D'abord, il y a ma grand-mère qui me lisait des histoires comme ça de Kipling, même assez jeune. Donc c'est vrai que c'est un texte assez littéraire, assez écrit, qui est très beau, dont je ne comprenais pas toujours le sens, mais dont la poésie me touchait malgré tout, et qui a vraiment rythmé mon enfance, plus les illustrations de Kipling, qui sont elles aussi un peu étranges, un peu décalées, en noir et blanc, des gravures qui sont très très belles. Et puis après, c'est vrai que j'étais dans les années 70, donc il y avait une explosion de couleurs et de liberté dans la littérature jeunesse, de Toomingerer, en passant par Max et les Maxi-Monstres, Le Prince des Mots Tordus, il y a une ribambelle d'albums qui m'ont marqué et graphiquement et aussi au niveau des textes en fait, et de la liberté qui était dans ces textes.
Alors vous aimez jouer sur différents territoires puisque vous êtes auteur donc de récits, par exemple comme Le Sapin paru chez Naïve en 2008, une histoire sans parole, ou bien Et si j'étais chez Naïve aussi paru en 2009 quand on se prend pour un héros. Vous êtes aussi auteur de livres de jeux visuels, alors je cite Cherche la petite bête paru en 2008 chez Naïve, La petite bête qui monte chez Helium 2009, ainsi qu'une boîte jeu L'oiseau patate chez Lyon 2009. Et puis, troisième axe de travail, me semble-t-il, ou encore, vous nous proposez des livres de bricolage avec des collages, des découpages, des coloriages, des stickers, comme Tête de pioche, un livre d'activité chez Albin Michel, paru en 2009, ou encore Ma fabrique à images chez Albin Michel en 2008. Donc, vous semblez alterner les plaisirs avec des univers très graphiques et des techniques d'illustration très différentes, en créant des livres qui permettent à l'enfant lecteur de se construire un rapport dynamique et ludique à l'image. Qu'est-ce qui fait que vous aimez comme ça expérimenter et proposer des choses aussi diversifiées ?
Et en fait, d'une part, c'est vrai, tout l'aspect narratif et histoire qui est quand même quelque chose, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui m'a marqué dans mon enfance, la magie de l'histoire qu'on raconte, l'instant même en fait où on prend le livre et on est assis à côté de l'enfant et on découvre une narration, une histoire, ça c'est quelque chose d'assez magique et calme que j'aime beaucoup faire partager, vivre même en tant que mère avec mon fils et mm-hmm. auquel je suis attachée aussi par rapport à ma propre enfance. Et puis par ailleurs, c'est vrai que le jeu aussi, le côté ludique du livre m'intéresse beaucoup parce que c'est un moyen aussi de partager l'éveil en fait. Je suis très attachée à ça en fait, à l'éveil et au jeu qu'on peut créer par les images, par le texte, par le livre sur différents aspects, que ce soit comme dans La petite bête, éveiller son regard, chercher, ouais. ne pas se fier aux apparences, ne pas se fier à la première image qu'on nous montre, mais chercher à découvrir des choses par soi-même, à être actif, comme vous le disiez, ça, je trouve mm-hmm. ça très intéressant, en fait, de faire en sorte que le lecteur, même très jeune, en fait, apprenne à être actif face à ce qu'il voit, que ce soit un livre, même après, ailleurs dans la vie, quoi. Mm-hmm. D'être actif et de pas se fier forcément au premier regard, quoi. Et puis après, dans ce qui est activité, c'est aussi un moyen de perpétuer le jeu, et surtout aussi que, toujours dans ce même domaine de l'activité, que l'enfant participe presque à la narration et propose son propre univers visuel, en mm-hmm. fait. À se juxtaposer au mien, que j'espère suffisamment ouvert, pour que lui puisse apposer sa patte. C'est ça que je trouve intéressant, en fait. C'est le côté participatif, mm-hmm. Que ce soit dans la lecture, mais aussi voilà, dans l'activité elle-même, dans le fait de prendre un crayon et d'avoir le droit de crayonner un certain type de livre, de coller des gommettes, de les enlever, de les mettre pas forcément là où on pensait pouvoir les mettre. Ça, je trouve ça très intéressant. Oui. Ça élargit le livre, en fait.
Oui, oui. C'est une offre de grande liberté de penser et d'agir.
Exactement. Je pense que le livre est tout à fait un terrain propice à ça, en fait. Et mm-hmm. que les petits, plus ils sont petits, plus c'est intéressant, à la limite. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'âge. Voilà, il faut commencer très jeune à apprendre à s'ouvrir l'esprit et les mains.
Alors, pour tenter de décrire un tout petit peu à la radio, moi je retiens surtout cherche la petite bête ainsi que la petite bête qui monte. Là, on est dans des univers très graphiques et il faut donc chercher, soulever les clapets et c'est très coloré. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez évoqué les années 70. C'est une source d'inspiration.
Oui, c'est quand même je suis née dans ces années-là et les chambres dans lesquelles je m'étais endormie enfant étaient tapissées mmh. de motifs plus gais et plus gros les uns que les autres. Et c'est vrai que ces motifs, ces couleurs et cette gaieté, en fait, il y a une espèce de forme de gaieté dans ce graphisme, m'a marquée et ça m'amuse de jouer avec ce côté-là parce qu'il y a un côté très rond aussi, je trouve, qui correspond mmh. assez bien à l'enfance et très dynamique dans les couleurs parce que moi j'adore les couleurs qui sont vives, quoi, qui sont mmh. denses et je trouve que c'est un bon moyen de proposer des visuels assez ludiques et attractifs mmh. et c'est vrai que bon, pour la petite bête par exemple, pour la petite histoire, quand j'étais enfant, voilà, mais quand je m'endormais, je voyais j'étais dans des chambres avec des papiers peints assez colorés, assez denses. Et puis, quand j'avais du mal à trouver le sommeil, je m'amusais par moi-même à trouver des formes, ce qu'on fait tous aussi, en regardant oui. des nuages, en regardant des taches de peinture qui sont un peu écaillées sur un mur, à trouver des personnages ou des bêtes ou des choses qui étaient cachées en fait, qui étaient en filigrane derrière le motif. Et c'est ce jeu-là en fait que j'ai voulu reproduire dans Cherche la petite bête et puis à nouveau la petite bête qui monte aussi.
Donc là, on part à la recherche du trèfle à quatre feuilles, de la petite araignée frigorifiée, du serpent qui bricole et son jeune fils. Voilà, donc c'est très stimulant, c'est une très jolie invitation. Et pour parler de choses, donc pour illustrer peut-être ce que je disais tout à l'heure en présentation, des choses diversifiées, Tête de pioche, alors là c'est aussi un livre d'activité avec des gommettes pour faire des collages sans queue ni tête, c'est écrit sur la couverture. Donc là vous avez joué avec la photo.
Ben, c'est vrai que bon là c'est à nouveau aussi dans la espèce de problématique de faire changer un peu le regard par rapport à un objet qui existe, qui a une fonction, qui a une certaine forme, et tout d'un coup cette forme qu'on croyait destinée à une fonction peut devenir totalement autre chose juste par le fait de coller deux yeux. Alors une théière peut devenir un personnage un peu effrayant, un interrupteur électrique peut devenir un bonhomme, le seau qu'on emmène pour jouer au bac à sable à nouveau quelqu'un. Enfin, la réalité change, et par le prisme de l'imaginaire, juste en collant quelques petites gommettes, devient autre chose en fait. Ouvre vers un autre univers qui est aussi à construire par l'enfant. C'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est pas moi non plus forcément, je donne des pistes parce que c'est vrai que les gommettes ont une certaine forme et puis il y a des petits textes à côté. Mais l'enfant aussi crée son portfolio lui-même. Mmh.
Oui, puis les textes à côté ne sont pas des textes pour illustrer. Je trouve qu'il y a toujours de l'émotion en fait dans ces textes qui accompagnent les images en interaction en fait.
C'est aussi pour ramener un peu de poésie en fait dans ces objets qui sont des objets manufacturés et qui peuvent avoir un côté peut-être un peu froid, mais que je trouve assez touchant, hein, qui ont une âme. Et c'est vrai que les petits textes que j'ai mis à côté étaient pour souligner l'affect aussi qu'on peut avoir par rapport à certains objets qui peuvent évoquer d'autres vies, d'autres choses.
Et effectivement, là, on glisse sur le propos de vos livres. Je trouve qu'ils ont trait au plaisir de l'enfance, aux jeux, aux anecdotes, aux héros aussi. Donc là, c'est « Et si j'étais ?» qui nous invite à revisiter aussi des héros, Spider-Man, Tarzan, la fée Clochette, avec des situations très, très loufoques, ludiques. Par exemple, dans Le Sapin, là, c'est plus l'émerveillement de l'enfant devant Noël. En fait, tout ça pour dire que je trouve que vous entretenez une grande complicité avec l'enfance. Vous n'avez pas oublié votre enfance.
Non, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, que j'ai redécouvert en devenant maman. C'est vrai que la magie, l'émerveillement, en fait, la richesse émotionnelle de l'enfance, quelque chose qui est très important et sur lequel on se construit après, qui est quand même un espèce de référent absolu presque.
Oui, bien sûr.
Cette profusion d'émotions, je trouve, est un terrain très fertile, quoi, qu'il faut utiliser, en tout cas que j'ai eu grand plaisir à utiliser, et qui crée aussi une complicité avec les enfants, parce qu'ils sentent en fait qu'on peut avoir peur, on peut être étonné, on peut s'amuser, on peut casser de rire, tout ça c'est des choses assez magiques et très, très fortes en fait, qui peut-être en grandissant on essaie de les atténuer, on se montre moins, on s'offre moins, quoi, alors que l'enfant il donne beaucoup, quoi. Il s'offre beaucoup au niveau émotionnel.
Alors, nous avons évoqué pas moins de 3 livres parus en 2009, 4 en 2008, 3 en 2007 chez plusieurs éditeurs. Je vous invite, chers auditeurs, à vous rapprocher de vos libraires et bibliothécaires préférés pour continuer à découvrir l'univers de Delphine Chedru, une auteure imaginative et productive. Et je dirais d'elle comme une enfant qui ne se rassasie pas des expériences de la vie, des découvertes et des surprises. Et je vous pose une dernière question. Delphine Chedru, j'imagine que vous rencontrez vos lecteurs. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans ce qu'ils font, ce qu'ils disent de vos livres?
Ce qui aussi, c'est une grande joie de rencontrer ces lecteurs, de voir qu'on les a touchés, qu'on les a amusés et qu'on a créé une complicité en fait avec toutes ces petites têtes quoi. C'est très émouvant et c'est vrai que une des choses qui m'a le plus touchée récemment quand j'ai rencontré un enfant qui venait avec son livre, c'est de voir mon livre lu, c'est-à-dire qui était un peu corné, dont les pages avaient un peu souffert, la couverture avait des traces. Et là, on voit que le livre qu'on a fait, eh bien, il a vécu et il a servi et il a été pris en main, il a été ouvert, il a été reposé, réouvert et que voilà, il appartient vraiment à l'enfant et qu'il a sûrement rempli la fonction initiale qu'on lui avait affectée et que c'est devenu un vrai objet de transmission qui est très très émouvant. Donc c'est vrai que voir son livre un peu corné et abîmé par un enfant, c'est une grande joie.
Oui, ce que vous m'aviez dit la première fois qu'on s'était rencontrés, c'est qu'en fait vous êtes dans une démarche artistique poussée, pensée, riche, recherchée. L'objet livre est important dans sa facture, mais ce n'est pas du tout à destination des collectionneurs, bien au contraire.
C'est tout à fait. Non, l'important c'est que l'objet soit lu et manipulé. En fait, c'est pas du tout l'esthétisme qui m'intéresse. C'est l'efficacité aussi de l'esthétisme et surtout la finalité de voir l'enfant pouvoir avoir accès à tout ça et en profiter en fait. C'est ça le but premier quoi. C'est vraiment de toucher l'enfant et d'avoir un écho. Et c'est vrai qu'après quand on rencontre des enfants qui ont vécu avec le livre et ont eu des émotions et vous font part à nouveau de ce que vous leur avez dit, c'est extraordinaire quoi.
Eh bien, merci beaucoup Delphine Chedru, au plaisir de vous lire encore et encore. À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
J'ai une cabane en bois au fond du jardin. Elle est tout de guingois. Elle n'a l'air de rien. C'est mon royaume à moi. Quand j'ai un chagrin, là-bas je suis le roi. Plus rien ne m'atteint. J'ai des dizaines de chevaux qui sont très bien dressés. Ils dansent le rock et la techno. Rien que pour m'amuser, j'ai des milliers de pierres précieuses dans de jolis coffrets et une émeraude amoureuse d'un très beau bracelet. J'ai une cabane en bois au fond du jardin. Elle est tout de guingois. Elle n'a l'air de rien. C'est mon royaume à moi. Quand j'ai un chagrin, là-bas je suis le roi. Plus rien ne m'atteint. J'ai un bateau avec des voiles plus hautes que le ciel. Il m'emmène toucher les étoiles. Quand je n'ai pas sommeil, j'ai des oiseaux très amusants. De toutes les couleurs, ils battent des ailes en même temps. Pour mieux sécher mes pleurs, j'ai une cabane en bois au fond de ma tête. Elle est rien que pour moi. Elle est toujours prête. Je n'ai pas de jardin. J'habite au sixième, mais quand je vais pas bien, quand j'ai un problème, je vais dans ma cabane en bois, plus grande qu'un château. J'y laisse mes peines et mes joies, mes rêves les plus beaux. Je regarde des chevaliers depuis le haut d'une tour. Il peut venir toute une armée. Si je crie au secours, il y a la mer et l'océan. Entre mes quatre murs, je peux voyager dans le temps. Quand la vie est trop dure et j'ai même un tapis volant. Pour m'évader plus loin, ils m'emmènent où vont les enfants. Quand ils ont du chagrin. Jardin, elle est tout de guingois. chagrin. Là-bas, je suis le roi. Puis rien ne m'atteint. J'ai une cabane en bois. J'ai une cabane en bois.
C'était La cabane en bois de Sophie Forté. Alors, depuis 20 ans se déroule à Marseille le Festival international du documentaire. La prochaine édition se tiendra du 8 au 13 juillet. Alors, pendant ce prestigieux festival, qu'entre parenthèses, je recommande aux adultes avides de sortir des sentiers battus pour oser regarder le monde autrement par le truchement de cinéastes venus du monde entier. Je ferme la parenthèse. Dans le cadre donc du FID Marseille, une partie de la programmation est consacrée à des films à partager avec les enfants. Cela s'appelle Les Sentiers, on appelle ça un écran parallèle. Et c'est une proposition de Photokino depuis 4 ans associée au FID. Une belle programmation de curiosité. On retrouve donc sans tarder Nathalie Guimard et sa rubrique Le Petit Cinéma. Pour la quatrième année, donc, Photokino programme pendant le FID de Marseille des films pour tous, y compris les enfants de plus de 6 ans ou de 12 ans, selon les films. Mais que montrer aux enfants ? C'est une question que l'on se pose, naturellement, et surtout que l'on nous pose souvent au sein de Photokino. Mais de même, que montrer aux adultes ? Dans le cadre de ce festival, ce que nous choisissons de montrer, ce sont des films d'abord que nous aimons, qui nous semblent tout particulièrement éveiller notre regard à d'autres mondes et à une cinématographie, une écriture en images mouvantes et en sons de notre monde, ou plutôt de bouts de monde, d'histoires d'hier ou d'aujourd'hui, des histoires d'ici ou de beaucoup plus loin. Nous avons réuni à nouveau des films de tous horizons, mais qui nous semblaient pouvoir toucher adultes et enfants également. Films muets, films bavards, courts et longs, films d'artistes, films d'auteurs, films d'animation et de prise de vue réelle, des films qui nous parlent d'étrangeté, de familier, de familière étrangeté ou d'étrange familiarité. C'est une des thématiques abordées par le festival cette année. Et c'est sur cette thématique que nous avons tracé quelques sentiers.
Hey mister, you're laying on my pants.
Un caillou dans la chaussure, un caillou dans la chaussure.
9 films composeront cet écran. 3 longs métrages tout d'abord. Coco, le gorille qui parle. Coco, a talking gorilla. C'est un film de Barbet Schroeder, un film américain de 1978. Et qui est Coco plutôt ? C'est une jeune gorille de 7 ans. Une jeune gorille qui a été confiée par le zoo de San Francisco à Penny Patterson, une éthologue. Une éthologue, c'est quelqu'un qui étudie le comportement animal. Et depuis son plus jeune âge, Penny Patterson apprend à Coco le langage des signes américains. Alors Coco, bon, au moment du film, en 1978, connaît 350 mots. Donc, l'un des plus vieux rêves de l'humanité se réalise, un animal parle avec l'homme.
be such a sorehead, Joey. I was only teasing. I didn't mean to drop the bat on your head. Anyways, I didn't think it would hurt so much.
Oh, yeah? It hurts every time you do it.
Big brother. He's 12 today.
That's his birthday present, the harmonica. Lenny's a good harmonica player.
He's a good baseball player, too. He shouldn't have got no birthday present because all the time he's teasing me.
He never even lets me touch his harmonica.
That's my kid brother, Joey. Everybody says, couldn't you kiss him? So go ahead, kiss him. Joey ain't so bad. But he's a pain in the neck in the summer on account of my mom works and I take care of him. Boy, am I glad it's Saturday. Joey's smart for his age, especially about horses. He don't hardly think of nothing else. In all your whole life, you never met a kid who happened to be so crazy about horses.
Vous venez d'entendre l'introduction du film Le Petit Fugitif. Un film de Ray Ashley, Maurice Engel et Russ Orkin de 1953. Joey, 7 ans, vit avec son grand frère Lenny et sa mère dans Brooklyn. Mais devant s'absenter, elle confie Joey à la garde de Lenny, qui tente de se débarrasser du petit frère encombrant, en lui faisant croire qu'il l'a accidentellement tué, quand même. Mais Joey croit à la mauvaise blague et ne voit qu'une issue possible, la fuite à Coney Island. Vous connaissez ce grand parc d'animation près de New York. Et il va là-bas passer toute une journée, et même une journée de liberté et d'aventure. Le Petit Fugitif, c'est un film ressorti en 2009, un film rare et magnifique, qui impressionna en son temps les futurs cinéastes de la nouvelle vague.
Kaspar Hauser.
L'énigme Kaspar Hauser. C'est le troisième long métrage présenté dans cet écran Les Sentiers pendant le FID Marseille, un film de 1974 de Werner Herzog. Le dimanche de la Pentecôte 1828, on recueillit dans la ville de N un jeune homme abandonné. On le nomma Kaspar Hauser. Il savait à peine marcher, dire une seule phrase, et quand il sut parler, il raconta toute sa vie. Enfermé dans une cave sombre, ignorant tout du monde et de tout être humain, car on lui glissait sa nourriture pendant la nuit. Il n'avait aucune idée de la parole. Puis un homme serait entré chez lui. Le mystère de ses origines reste entier. L'écran Sentier présente également deux programmations de films courts. Le premier programme réunit trois films. Un jour, un film français, un film d'artiste de Séverine Hubbard, dans lequel vous verrez une maison préfabriquée prendre la poudre d'escampette. Et puis, Diez y nueve hilos, 19 fils en français, vous permettra de rencontrer deux personnages, un créateur et sa créature, un marionnettiste et sa marionnette, étrangement ressemblants.
Tenés la mirada un poco cansada, Demetrio, ¿eh? Yo te conozco.
De cette maison au milieu de la forêt, nous passerons au troisième film du programme 1 des courts-métrages sur cet écran Les Sentiers. Troisième film, drôle, un drôle de locataire, avec Charley Bowers. Cet acteur, réalisateur américain des années 30 qui a fait notamment ce film en 1927, A Wild Rumor, qui vous donnera l'occasion de découvrir les talents de Charley Bowers qui mélange animation image par image et personnages réels. Donc voilà, c'est un des pionniers de cette technique.
Un caillou dans la chaussure.
Le petit cinéma.
Deuxième programme de court-métrage. Avec trois autres films dont on écoute un premier extrait. Étrange brouhaha sonore, c'est la répétition d'une fanfare. Fanfare d'ailleurs que nous ne verrons pas dans ce film Lost World, premier film de cet écran, de ce deuxième programme de court-métrage dans l'écran Sentier. Lost World, c'est un film hongrois qui nous présente la transformation d'un paysage. Le réalisateur Nemes Gyula a filmé pendant 10 ans la vie d'hommes et de femmes vivant de peu le long du Danube, dans des péniches et des cabanes, luttant contre les inondations, la neige et surtout les investisseurs, qui gagneront la partie en fin de compte. Donc sur 10 ans, on a la chance de pouvoir observer ces curieuses transformations. Et puis on est bercé surtout le long de ces images par un son donc assez désynchrone, avec à la fin, vous l'imaginez bien, un mouvement plus accéléré aussi, qui évoque aussi notre époque, et puis un univers effectivement fort transformé.
Thank you.
Les escargots, c'est un film de René Laloux et Roland Topor. René Laloux à la réalisation, Roland Topor au scénario et au dessin. Avec la très importante musique d'Alain Goraguer, dont vous avez pu apprécier la force illustrative à l'instant. Je vous ai pas passé l'extrait du film en entier, mais on n'était pas loin. Le film dure 11 minutes, on vient d'écouter 3 minutes. C'est un film de 1965. Et qui notamment, bon, qu'on a aussi déjà présenté, mais qui est tellement étonnant, puisque très proche de la science-fiction, nous présente le désespoir en fait d'un paysan qui, pauvre, souffre en plus de mauvaises récoltes de ses chétives salades. Il ne sait pas comment les remplumer, ces salades. Il va trouver le miracle, mais à quel prix, vous allez voir.
Loi Bernache du Canada, de la famille des Anatidés, est la plus grande des Bernaches, également appelée oie noire. Au Canada, elle est couramment appelée outarde, terme réservé en Europe aux Otididae. Il s'agit bien là d'une oie européenne et non d'une Branta hutchinsii, terme réservé à sa cousine l'américaine Bernache de Hutchins. Comme tout écosystème européen ou non, celui de l'oie Bernache est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants. On y trouve des tortues, des poules d'eau, des rats des villes ou rats des champs, des colverts, des poneys, des chiens. Les lois de la nature sont impitoyables. Mais le vrai maître et possesseur de la nature, il enchaîne, il attache, il harnache, il muselle, il monnaie.
Drôle d'extrait, n'est-ce pas? C'est un extrait de Passe Merveille, avec notamment une voix off interprétée par Michael Lonsdale. Dans ce donc faux documentaire animalier dont vous avez peut-être un peu compris, vous allez plonger dans l'univers d'un parc parisien. Petit à petit, cette voix off va s'émanciper. Et puis, on va donc plutôt observer le comportement de cette étrange espèce qu'est l'Homo sapiens, urbain, dans ses activités du dimanche. Voilà, donc on va s'approcher avec malice ainsi des questions liées à l'interdit et puis aussi à l'illusion cinématographique. Voilà, et plus modestement, à la place de l'homme dans ce monde. C'est le dernier film de ce deuxième programme de court-métrage, c'est le 9e film de cet écran Les Sentiers, et c'est ainsi que je clôture cette présentation. Petit cinéma exceptionnel, écran sentier pour, voilà, qui aura lieu du 8 au 13 juillet pendant le FID Marseille. Si vous voulez plus de détails sur l'écran sentier et surtout aussi sur le festival du documentaire Le FID Marseille, nous vous invitons à consulter le site du festival fidmarseille.org. Je recommande, en plus des films que je viens de vous présenter, un film de la thématique étrange familiarité, familière étrangeté, c'est L'homme qui rétrécit. Voilà, c'est important de voir ce film si on ne l'a pas vu et c'est, si vous avez des enfants pas trop craintifs, c'est bien de le partager avec eux. Voilà. Peut-être dire préciser les lieux du festival cette année qui ont un peu changé, Marie-Dominique.
Oui, puisque la Criée est en travaux. Donc le FID a déménagé cette année dans différents lieux. Donc le Théâtre du Gymnase, le CRDP, les Variétés et la BMVR à l'Alcazar.
Children.
Pour terminer l'émission et ouvrir sur des sorties pendant l'été, nous avons invité aujourd'hui Caroline Guichard du magazine Trottinette, un journal gratuit distribué à Marseille et en région, truffé de trouvailles et de bonnes idées. Caroline Guichard, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce journal ? Il existe depuis combien de temps ?
Trottinette a été créé en 2005. C'est en effet un magazine culturel mensuel et gratuit consacré aux sorties et activités des 0-12 ans dans les Bouches-du-Rhône. Il s'adresse aux familles et aux professionnels de l'enfance. Chaque mois, la rédaction décline une thématique. En mai, nous avons ainsi traité des transports. En juin, des activités nautiques. Et cet été, ça sera un double numéro exceptionnel sur les festivals. Donc, au fil des numéros, les parents retrouvent les sorties ciné, des chroniques sur la littérature jeunesse, une sélection de spectacles jeunes publics ou une manifestation à faire en famille, des idées de balade. Et à la fin, on peut y trouver un agenda assez complet qui recense toute l'actualité jeune public et qui représente un outil précieux pour les parents au quotidien.
Où est-ce qu'on le trouve, ce journal ? Donc je disais en introduction, il est gratuit ?
Oui, il est diffusé à 20 000 exemplaires et il est distribué aux quatre coins du département avec deux gros points de diffusion sur Aix-en-Provence et sur Marseille. Généralement, la liste des points se trouve dans chaque numéro et sinon, il est possible de la télécharger sur la page de notre site qui est toujours à venir. Et sinon, on peut aussi s'abonner avec...
Oui, voilà. C'était ma question. Je me souvenais pas si on pouvait s'abonner.
Si, au contraire, c'est même souhaité.
Bon, alors Caroline Guichard, tu as évoqué le numéro spécial festival. Effectivement, là, ça y est, c'est l'été. Donc, est-ce que tu as une sélection de sorties, de rencontres.
Oui, en effet, au sommaire de notre numéro d'été, les festivals seront à l'honneur avec des programmations alléchantes qui font la part belle aux enfants. Des festivals qui, comme chaque année, se bousculent plus en juillet qu'en août. Alors, parmi les incontournables, évidemment, Festimôme, qui nous promènera dans ses deux chevaux décapotables du Garlaban, dans les rues d'Auriol et d'Aubagne, pour 6 jours, de festivités entièrement gratuites. Donc Festimôme, c'est du 20 au 22 juillet à Auriol et du 23 au 25 à Aubagne. C'est une 8e édition où nous retrouverons du théâtre, des arts de la rue, mais aussi beaucoup d'ateliers dans la journée, à la fois des ateliers d'art plastique, du cirque et des balades, voilà, à faire en famille. Cet été encore, les environnements, une manifestation où le public est invité à se perdre sur les chemins de traverse du delta du Rhône, concocté par la compagnie L'Utopie et son Citro Jaune, qui nous offre un décloisonnement foisonnant des territoires et des pratiques artistiques. Comme chaque année, le public découvrira des spectacles, des performances et des installations et pourra échanger et dialoguer avec les artistes et scientifiques invités cette année à s'exprimer sur le thème du visible et de l'invisible. Mon coup de cœur personnel, c'est pour le spectacle Musée Bombana de Coco Logo. Alors, ce spectacle, c'est l'aboutissement d'un compagnonnage de création entre la compagnie Opus. Alors, Opus, c'est l'office des fabricants d'univers singuliers. Et le, voilà, qui nous avait régalé son célèbre fameux petit répertoire. Donc, compagnonnage avec la compagnie du fil du Burkina Faso. Alors, c'est la réalisation d'un certain nombre d'objets détournés qui s'inspirent du mode de vie et des coutumes locales, où on le rencontrera Monsieur Bakar, qui est le directeur de ce petit musée de brousse qui réunit une foule d'objets à utilité variable. Estampillé par les plus grands spécialistes de la bricole, les trouvailles dessinent une géographie fantaisiste d'un village qui ne l'est pas moins. À noter donc les environnements du 31 juillet au 7 août. Là aussi tout est gratuit, sauf le répulsif anti-moustique.
Un caillou sur la chaussure. Un caillou dans la chaussure.
À découvrir également en famille, les airs libres, un autre festival éco-responsable. Le 19 juillet, les airs libres se promènent du côté d'Embrun, avant de nous revenir le 6 septembre à Saint-Martin-de-Crau. Alors, ce festival a repris l'idée des siestes électroniques où l'on va dans un coin de verdure écouter de la musique électro pour lui ajouter, au fil des ans, une programmation d'ateliers destinée aux enfants qui est de plus en plus riche. Les arts plastiques se taillent la part du lion, mais l'exercice des nouvelles pratiques musicales n'est pas en reste, avec des ateliers de sampling et d'initiation au mix. De quoi donner aux enfants l'envie d'animer vos soirées estivales. Toujours côté musique, et là au mois d'août, donc on le note bien sur son agenda car il n'y a pas le foison de festival en août, les rues en musique à Arles. Alors, la cité romaine tente de combattre la torpeur culturelle qui s'y vit au mois d'août en proposant des concerts de rue le mercredi, le vendredi et le samedi. Le 1er août, Mazalda et sa fanfare festive nous baladera sur les quais de Trinquetaille au bord du Rhône. Le mercredi 5 août, les 5 artistes polyinstrumentistes du Barquest Orchestra installeront leur caravane jaune sur la place de la République, le temps de jouer avec le public sur des airs de jazz klezmer. Tandis que le 12, une diva proposera une fantaisie décalée et onirique du haut de ses échasses, place Voltaire. Voilà une proposition qui mêle visite touristique et découverte musicale. Et là, le tout est encore gratuit. Alors, pour une fois, Trottinette a dépassé, sorti un peu de ses frontières du 13 pour aller se promener dans le Vaucluse avec le festival Théâtre Enfant qui se trouve avenue Montclar à 200 mètres des remparts à Avignon. Car les enfants, eux aussi, ont leur festival d'Avignon avec ce très installé festival qui en est à sa 27e édition et qui se déroulera du 8 au 25 juillet. Alors une programmation éclectique et puis aussi peut-être l'apéro sirop aussi attire à la sortie des spectacles les jeunes spectateurs. Donc cette année, 8 compagnies et 3 conteurs qui du théâtre à la danse, de la marionnette aux expériences aériennes éveilleront la curiosité en faisant découvrir au jeune public des formes multiples et sensibles de la création contemporaine. Vous pourrez y voir entre autres « Petite forme pour petit bout » de la compagnie Boudhomme, une deuxième création pour cette jeune compagnie marseillaise, un spectacle interprété par Charlotte Smisser qui s'adresse aux enfants des 18 mois et tricote objets dans ses comptines. Alors, toujours dans le Vaucluse, du 5 au 24 juillet, Villeneuve-en-Seine à Villeneuve-les-Avignons. Alors, Villeneuve-en-Seine, c'est 4 hectares de verdure entièrement dédiés au théâtre itinérant. Pour ceux qui les ont ratés au mois de mars, au théâtre du gymnase, ou pour ceux qui désirent se délecter à nouveau de la prose de ce monsieur Jourdain Éconoclaste, l'agence de voyage imaginaire de Philippe Carr présentera son bourgeois gentilhomme. Un spectacle pour pantins, robots, acteurs et manipulateurs à voir en famille à partir de 8 ans. Beaucoup de vitalité et de force dans cette adaptation du texte de Molière, où l'on salue la véritable armada de créatures échappées de rêves et de cauchemars.
Un caillou dans la chaussure.
Voilà, c'était nos coups de cœur du numéro d'été. Vous pourrez également trouver plein d'autres idées dans l'agenda. Et puis nos rubriques habituelles à l'écran, le florilège avec toute une sélection de cahiers d'activités. Et puis quelques musiques nomades sur les terres slaves. Je vous propose de terminer en musique avec chanson grecque, extrait de Carte postale des Balkans, conte contine et chanson de Muriel Bloch et Eric Slabiak, édité chez Naïf.
La 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 la. Το φεγγάρι ολοχάρι βγήκε μέρα μεσημέρι μία βόλτα για να κάνει. Ασημένιο σα σφουγγάρι με τον ίνιο κάνει κόντες, ποιος τον ουρανό θα πάρει. Φύγε κουδό γιατί σε εδώ, τι ώρα είναι αυτή που βγήκες. Ήρνα ξανά στα σκολίνα της νύχτας τα στενά. Ήθα κι εγώ αφού μπορώ να σε ακολουθήσω. Θέλω να δω τον κόσμο αυτό με γαλανό ουρανό. Λα 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 λα. Με φωνήγε, με φοβέρα, παίρνει ο ήλιος στο σπαθί του να του κόψει μία φέτα. Το φεγγάρι δε φοβάται, κάνει πύρους κανεβαίνει πάνω στου ήλιου το κρεβάτι. Φύγε κουτό γιατί σε εδώ, τι ώρα είναι αυτή που βγήκες. Γύρνα ξανά στα σκολίνα της νύχτας τα στενά. Φύτα κι εγώ αφού μπορώ να σε ακολουθήσω. Θέλω να δω τον κόσμο αυτό με γαλανό ουρανό.
Un caillou dans la chaussure, c'est terminé. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous avons accueilli Caroline Guichard pour le magazine Trottinette, Nathalie Guimard, fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup. C'était donc le dernier rendez-vous de l'année 2008-2009. On se retrouve dès septembre. Je ne connais pas encore le calendrier exact. Je vous souhaite à tous un très très bon été. Et bien entendu, c'est un rituel. Merci beaucoup à Sébastien Gély de nous accompagner. Donc c'était la deuxième année et en septembre on démarra la troisième année, Un caillou dans la chaussure. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter les émissions sur le site de Radio Grenouille à la page Un caillou dans la chaussure.